Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin, nous célébrons les langues anciennes, comme le latin et le grec, un bagage culturel inestimable qui permet une meilleure connaissance de la langue française, de reconnaître les références latines dans un musée ou dans la culture pop, de s'abreuver à d'inaltérables classiques de la littérature, de se passionner pour la mythologie qui excite l'imagination ou l'intelligence. Comme le font remarquer Alain Rey et Gilles Soufi, le latin et le grec ne sont pas des langues mortes, mais des semences immortelles qui donnent de l'éclat à nos phrases et à nos savoirs. Parmi les barbares qui ont saccagé et sali le Capitole de Washington, combien connaissaient l'existence du Capitole, l'une des sept collines de Rome, l'une des sources de notre civilisation occidentale? Ce matin, nous célébrons le latin et le grec qui peuvent enchanter nos vies en ce moment. Et vous le verrez, il n'y a pas d'âge pour commencer. Et vous, racontez-nous si vous êtes sensible à l'antiquité gréco-romaine, si vous conservez de bons souvenirs de vos cours de latin et de grec, et de quelle façon l'apprentissage de ces langues vous a rendu service. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Louise Cunéo, bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste au Point, rédactrice en chef du hors-série Latin et Grec, le guide pour apprendre à tout âge, actuellement en kiosque. Bonjour Robert Delors, bienvenue.
Bonjour.
Professeur de lettres classiques au collège Daniel Fauché de L'Oriol dans la Drôme. Vous avez publié aux belles lettres Mordicus, ne perdons pas notre latin. Et vous êtes par ailleurs vice-président de l'association Arrête ton char, langue et culture de l'Antiquité. Aujourd'hui, bonjour Bernard-Pierre Molin.
Bonjour.
Vous avez publié un livre très amusant et très instructif aux éditions EPA, Astérix, les citations latines expliquées de A à Z. On évoquera quelques-unes de ces citations tout au long de l'émission. Bonjour Blandine Lecallet.
Bonjour.
Romancière, essayiste, maître de conférences en latin à l'université Paris-Est Créteil. Vous avez notamment publié Rome et ses monstres. Vous avez créé la BD Médée, dont le quatrième tome est paru chez Casterman. Et vous avez récemment écrit une passionnante encyclopédie, Le monde antique de Harry Potter, chez Stock. Alors, Louise Cunéo, qu'on le veuille ou non, le latin et le grec font partie de notre héritage et de notre vie quotidienne.
Absolument, Ali. Elles sont partout, en fait, ces langues dont on dit mortes et qui, en fait, sont plus que jamais vivantes. Elles nous permettent, évidemment, de connaître bien notre langue, que ce soit en matière d'orthographe, comprendre le sens des expressions du quotidien, que ce soit les cornes d'abondance et tout ce qu'on peut utiliser. Mais mieux les connaître, en fait, c'est mieux maîtriser les mots qu'on utilise au quotidien. Et ça permet de mieux s'expliquer, de mieux écrire. Ça permet aussi de mieux parler et, évidemment, de mieux penser, parce que tout ça, ça aide à penser, quoi.
Robert Delors.
Moi, j'ai tendance à dire, parce qu'on, souvent on nous dit que les langues anciennes ne servent à plus à rien. Moi, j'ai plutôt tendance à dire l'inverse, c'est-à-dire que les langues anciennes servent à tout, parce que, en fait, par le biais de cet enseignement, on aborde absolument tous les domaines du savoir, de la littérature, à l'histoire-géographie, aux langues vivantes, à l'archéologie, à l'histoire des arts, la philosophie, les sciences. C'est vraiment une discipline très complète.
Alors notre langue est évidemment tissée de grec et de latin, le vocabulaire scientifique, médical, juridique est gorgé de grec ancien et de latin, et on retrouve dans notre vocabulaire courant quantité de mots venus de Rome ou d'Athènes, Blandine Lecallet.
Ah ben oui, il y en a effectivement plein. C'est vrai que quand on fait du latin, on fait du grec sans le savoir, parce que le latin a récupéré et transposé en latin beaucoup, beaucoup de mots grecs pour tout ce qui concerne notamment les sciences. Et donc, c'est vrai que quand on fait de l'étymologie avec les élèves ou avec les étudiants, on acquiert une forme d'intelligence de la langue qui est hyper intéressante. Par exemple, le mot calamar, ça vient de calamus, le roseau en latin, parce que en fait, calamarius, c'était un étui où on rangeait tout le nécessaire pour écrire. Et dans le nécessaire pour écrire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'encre. Et donc le calamar, en fait, c'est une sorte d'encrier. Vous voyez, il y a une espèce de métaphore, et dès qu'on fait un petit peu d'étymologie du latin et du grec, on tombe sur ce genre de métaphore qui poétise la langue française, en fait.
Robert Delors, sur cette intelligence de la langue.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que non seulement ça permet de, évidemment, alors les arguments classiques en faveur des langues anciennes, d'enrichir son vocabulaire, mais surtout ça permet d'atteindre une certaine finesse dans la compréhension du vocabulaire, dans la compréhension des concepts, des notions qu'on n'obtient pas si on n'a pas ce regard étymologique sur la langue. Et puis évidemment, alors ça c'est le côté, on va dire, un petit peu pragmatique, mais il y a le côté aussi, comment dire, la mythologie, l'étymologie, les deux permettent de raconter des histoires. Et ça, quand on est enseignant, raconter des histoires, c'est ce qui permet aussi très souvent de d'accrocher les élèves, de les rendre attentifs, de les intéresser et de voir des émerveillés.
Alors dans notre vocabulaire courant, on retrouve quantité de mots venus de Rome ou d'Athènes, album, placebo, vice-versa, lavabo,
curriculum...
Coronavirus, curriculum vitae, sans compter les mots avec des suffixes ou préfixes issus du grec ancien, oligarque, thalassothérapie, anthropophage, arachnophobe. Et le latin, Bernard-Pierre Molin, est très présent dans notre quotidien grâce aux nombreuses citations que nous utilisons en version originale ou dans notre langue. Par exemple, hier j'ai fait une faute de français absolument affreuse, j'ai dit « Est-ce que vous acquiescez Christophe André ?» J'aurais dû dire « Est-ce que vous acquiescez aux propos de Christophe André ?» Errare humanum est, l'erreur est humaine. C'est une phrase que l'on attribue à qui? À Sénèque,
à Cicéron, mais à Cicéron. Probablement à Saint Jérôme, qui est un moine, enfin un saint, donc, qui a une espèce d'intello qui a copié la Bible au 4e siècle à peu près. Et pourquoi on pense que c'est lui qui aurait dit ça? C'est parce qu'en fait, c'est la suite qui est pire. C'est ça, il ne faut pas vous en vouloir. On a le droit de se tromper. Mais en fait, perseverare diabolicum. Donc il y a une référence...
Persévérer est diabolique.
Et oui, on est entre latinistes, moi je ne traduis plus. Hein. Et, enfin bon, bien que je ne sois pas latiniste. Et donc voilà, cette référence au diable t'en laisse penser qu'effectivement ce serait une référence chrétienne, voilà, une citation chrétienne. Donc chrétienne, donc plutôt Saint Jérôme.
Robert Delors, sur toutes ces citations et ces maximes latines présentes dans notre vie quotidienne?
Alors déjà, j'aimerais rebondir sur votre petite erreur. Ce qui est assez drôle, hein, c'est le problème de construction du verbe acquiescer.
Oui.
Et si vous voulez, voilà. En fait, on est actuellement en France avec des programmes de français où la maîtrise du complément d'objet direct,
exactement,
elle est attendue en fin de troisième. Si vous voulez, quand on est latiniste ou helléniste, on peut pas se permettre d'attendre la fin de la troisième pour apprendre ce que c'est qu'un COD. Oui. Donc voilà, on fera moins cette erreur avec le verbe acquiescer si on a un jour étudié le latin ou le grec. Mmh. Alors sur les expressions, bah oui, effectivement, elles émaillent, je crois que des emprunts directs comme lavabo, je me laverai, ou comme minimum, etc. On en a plus de 600 dans le dictionnaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Les Anglais en ont beaucoup aussi, hein. C'est pas quelque chose qui est réservé à la France, d'emprunter directement des mots latins. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout l'emploi qui en est fait. C'est-à-dire que souvent quand on les utilise, quand on les place au détour d'un petit discours pour un homme politique ou pour quelqu'un des médias, c'est un petit peu aussi de temps en temps pour se faire mousser. Donc il y a ce côté un petit peu prestigieux, un peu clinquant du latin qui est encore présent et qui fait encore son petit effet.
Bernard-Pierre Molin, lire Astérix est un plaisir à plusieurs étages quand on connaît certaines formules latines. C'est une couche supplémentaire de connaissances et d'humour.
Bah en fait, Goscinny, qui était absolument pas latiniste, ça nous fait un point commun. Il a passé beaucoup de temps à lire les pages roses du dictionnaire et
du Larousse.
Du Larousse, absolument, ou Larousse en latin, et il y a puisé ses petites citations qui permettaient de donner une couleur à ces textes et à ces romains qui faisaient exister et qui évidemment eux dans la vraie vie d'il y a 2000 ans parlaient latin. Et donc il a ponctué comme ça de les cases et les moments de l'album de ces citations pour donner des rebonds souvent très humoristique, parce qu'il avait quand même incroyablement de l'humour.
Alors on parle d'Astérix, on peut également parler de Harry Potter, hein, créé par J.K. Rowling. Pour encore mieux apprécier une œuvre comme Harry Potter, il est bon de se plonger dans la culture antique et dans sa mythologie. Harry Potter, c'est une réjouissante introduction à l'Antiquité.
Oui, c'est sûr. En fait, bon, d'abord, on l'a remarqué, hein, les sorciers parlent le latin, en tout cas une langue qui lui ressemble beaucoup pour leur formule magique. Et en plus de ça, tous les noms de personnages font référence à des monstres, à des dieux de l'Antiquité ou à des personnages historiques. Et ce qui est intéressant, c'est que J.K. Rowling, elle crée vraiment un réseau hyper cohérent, c'est-à-dire que les personnages ont des points communs sur le plan physique et même moral avec les personnages antiques auxquels ils font référence. Donc c'est sûr que c'est le deuxième effet de plaisir. Outre le plaisir de lire la saga, il y a ce réseau de référence à l'Antiquité qui est hyper réjouissant. Et j'ai pu remarquer combien, quand j'ai fait beaucoup de rencontres avec des jeunes en médiathèque ou en collège et lycée, ce qui m'a beaucoup réjoui, c'est qu'ils connaissent très très bien la mythologie.
Quelques exemples
dans... Alors, on peut parler par exemple de Argus Rusard, le concierge de Poudlard, qui est un personnage hyper morose et qui passe son temps à fureter dans les couloirs de Poudlard à la recherche d'élèves récalcitrants qui rêvent de punir, si possible, des punitions extrêmement douloureuses. Argus, dans la mythologie gréco-romaine, c'est un monstre qui est doté de 100 yeux sur tout le corps et la moitié des yeux se repose pendant que l'autre moitié est en éveil. Donc Argus, c'est le super monstre, le super gardien, en fait. Et Rusard, qui furette partout, c'est le gardien. Et en plus, J.K. Rowling, dans sa description physique de Argus Rusard, dit qu'il a des yeux qui brillent comme des lampes. Mmh. Et Argos, en grec, ça veut dire le brillant. C'est la brillance du regard. Donc elle s'amuse vraiment, elle joue aussi avec l'étymologie dans les noms de ces personnages.
Prenons l'exemple de Minerva McGonagall, la professeure de métamorphose à Poudlard.
Mm-hmm. Alors Minerva McGonagall, Minerve, déesse de la sagesse, mais aussi déesse guerrière. Minerva McGonagall, elle a aussi cette double fonction. Elle est hyper intelligente. C'est le bras droit de Dumbledore qui est assimilé à Jupiter, Zeus. Donc, Athéna Minerve est aussi le bras droit de son père, hein, c'est l'enfant préféré de Zeus. Et puis, lors de la bataille de Poudlard, Minerva McGonagall, c'est elle qui est la stratège, qui prend le contrôle des opérations. Donc là encore, J.K. Rowling joue vraiment avec les différents attributs de la déesse Athéna Minerve qu'elle transpose dans le personnage de Minerva McGonagall. Et on peut multiplier à l'infini avec tous les personnages de la saga.
Hermione Granger.
Hermione, il y a tellement de choses à dire sur Hermione. Herméneine en grec, ça veut dire interpréter. Et Hermione, c'est celle qui déchiffre toutes les énigmes. Et puis son prénom, alors je sais pas, je vais essayer d'être courte, hein, mais je me suis beaucoup interrogée sur le prénom d'Hermione parce que Hermione dans la mythologie, c'est la fille d'Hélène et Ménélas, c'est une princesse assez austère, assez morose, à la limite de la dépression. Et je me suis dit, mais quel rapport avec Hermione Granger qui est si lumineuse, si extraordinaire. Et j'avais fait part de ces interrogation à une classe d'étudiants en leur disant « Je ne comprends pas. » Bon, alors Hermione ensuite a épousé Pyrrhus, le fils d'Achille. Pyrrhus, ça veut dire le rouquin en grec. Mais je ne vois pas le rapport avec le personnage d'Hermione. Et là, il y a eu un éclat de rire général dans la salle. Et les étudiants m'ont dit « Mais madame, le rouquin, le rouquin !» Et il se trouve que Hermione Granger, pardon pour le spoiler pour ceux qui n'ont pas lu Harry Potter, mais va épouser Ron, le rouquin, à la fin de la saga. J'en conclus que soit c'est vraiment un grand hasard, soit J.K. Rowling avait tout prévu et a choisi aussi le personnage de Hermione Granger à cause de ce destin qu'elle lui prédisait dans le tome 7.
Robert Delors, est-ce que certains de vos élèves au collège s'intéressent à l'Antiquité gréco-romaine, au latin ou au grec, grâce à ces figures de la culture pop comme Harry Potter ou bien Astérix ?
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est même un petit jeu entre nous, c'est que moi, je mets à contribution mes élèves pour leur demander de me rechercher des références à l'Antiquité dans les œuvres de culture populaire que eux lisent et que moi je ne lis parfois pas, hein. Notamment les mangas, ils sont bien plus spécialistes que moi. Et j'ai chaque semaine des élèves qui me ramènent des références. Alors évidemment, ça leur vaut un petit bonus dans la moyenne, mais je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que les élèves vont faire des liens, quoi. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et toute la culture populaire, hein, là on parlait d'Harry Potter, mais c'est vraiment toute la culture populaire qui est imprégnée de notre culture gréco-romaine. Vous prenez Star Wars, hein, les périodes historiques dans Star Wars, c'est royauté, république, empire, c'est vraiment un calque de l'histoire romaine. Vous prenez tous les personnages de comics américains dont on fait des films maintenant qui sont très mauvais, tous ces tous ces beaucoup mais tous ces super héros, ils ont généralement leur origine dans des héros antiques. Alors soit c'est vraiment une copie conforme du héros antique, soit ça va être il va apprendre les caractéristiques de plusieurs héros antiques. Et vous pouvez faire ça, si vous voulez, vous pouvez décliner ça avec à peu près tout ce qui est produit aujourd'hui, c'est-à-dire que on fabrique du neuf avec de l'ancien. Vous pouvez chercher il y a beaucoup de références à l'antiquité dans Game of Thrones. Vous regardez American Gods, là aussi évidemment il y a de la mythologie. Vous prenez le dernier Wonder Woman 1984 qui n'est pas sorti au cinéma à cause du Covid, mais voilà, le film se termine, je vais pas donner la référence, mais se termine par une référence très très appuyée à la fin de l'Empire romain. Vous prenez même des séries dans lesquelles on ne s'attendrait absolument pas à trouver ces références. Là en ce moment, je suis en train de compiler les citations latines et grecques dans une série américaine, Esprit criminel. Donc c'est un gros boulot parce qu'il y a 18 saisons, je crois, 16 ou 18 saisons. Mais vous avez à peu près, un épisode sur deux, vous avez une citation latine. Donc vraiment, il y a une profusion de références à l'Antiquité, que ça soit dans les séries télé, dans les mangas, parce qu'il faut voir aussi que c'est une culture qui ne fascine pas seulement les Européens, mais qui depuis une quinzaine d'années, fascine aussi beaucoup les pays asiatiques. Il n'y a qu'à regarder la production de mangas qui concerne la mythologie ou bien l'histoire grecque, l'histoire romaine. Vous avez des mangas sur les gladiateurs, vous avez des mangas sur les termes romains. Marie Yamazaki a fait une série à succès qui s'est vendue à des millions d'exemplaires. Vous prenez la publicité, on n'a pas parlé. Vous prenez pour les voitures japonaises, vous avez beaucoup de voitures japonaises qui portent des noms latins. C'est assez étonnant quand même. Et puis dernier exemple que je prendrai, c'est les groupes de K-pop. Alors ça fait fureur chez les ados, hein. Ça fait des millions, des milliards de vues sur YouTube. Donc ce sont des groupes de pop coréennes, et eux aussi se sont mis à l'antiquité. Ils font des chansons sur Dionysos, ils sont sur scène avec le tirse de Dionysos, hein. Ils font leur chorégraphie avec le tirse de Dionysos dans la main. Donc c'est assez surprenant en fait de voir à quel point cette mythologie gréco-romaine fait rêver tout le monde tout autour de la planète.
Ça fait rêver, ça, et ça peut donner envie de se plonger dans l'histoire de l'antiquité gréco-romaine. Moi, à titre personnel, le film Gladiator en 2000 m'a donné envie de me replonger dans la culture latine, et ça m'a permis de lire les merveilleux livres de Lucien Gerfagnon ou de Paul Venn. Alors, pour des générations d'élèves, l'apprentissage du latin a été synonyme d'un apprentissage rébarbatif. Bernard-Pierre Molin, je vous cite, hein, le latin est synonyme de petit matin d'hiver, de collèges mal chauffés, de textes abscons, d'auteurs impalpables, de déclinaisons impossibles, nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif.
Ça fait envie, hein.
Ah oui.
Non, j'ai honte de dire ça face à Blandine, qui l'enseigne, j'imagine, avec grand talent. Moi, c'est un peu le souvenir que j'en ai. Oui, je trouve ça difficile. Alors, peut-être que quand j'étais élève, peut-être qu'aujourd'hui le latin est enseigné de façon plus amusante. Que, enfin, moi, j'apprenais, on me faisait apprendre des déclinaisons quand même, et lire des textes auxquels on comprenait rien. Enfin, c'était voilà. Mais effectivement, j'aimais bien pourtant comme Goscinny, ces pages roses du Larousse, et puis placer une petite citation latine, tout ça c'est toujours assez classe, Veni Vidi Vici pour citer la plus célèbre, voilà, c'est toujours, voilà, ça permet de frimer à bon compte.
Blandine Lecalet, sur l'enseignement du latin et du grec réputé rébarbatif.
Moi c'est drôle parce qu'à titre personnel j'ai vécu les deux expériences, c'est-à-dire pendant les trois premières années, celle où on apprend les déclinaisons, les conjugaisons, le vocabulaire, etc. Je détestais le latin. Je trouvais que c'était rébarbatif, que ça demandait énormément d'efforts, et je voyais pas l'intérêt. Et puis une fois que je suis passée à la quatrième année où on a commencé, j'avais les bases et on s'est attaqué au texte, j'avais un prof extraordinaire qui s'appelait Monsieur Vigier, que je salue s'il m'entend. Et là, je me suis mise à... on bascule du côté non obscur de la force, et on découvre le plaisir qu'il y a à cet exercice de logique, cette espèce de cluedo, cette espèce d'enquête. On a un mystère à résoudre, une phrase à traduire, et après, c'est qu'une histoire de logique. Et donc, je pense que le latin peut être hyper enthousiasmant lorsqu'on est passé par la phase un peu difficile et âpre de l'apprentissage des bases.
Et puis il y a une beauté musicale aussi dans le latin. Hein, oui. Il y a vraiment quelque chose de je sais pas. Moi, j'ai découvert ça un petit peu par la fraude en m'intéressant en écrivant ce livre sur, je sais pas, le discours de Cicéron notamment. C'est incroyable. C'est incroyable la force, la puissance de ces textes. Quoi. Moi, je les comprends pas très bien. Je lis la traduction en même temps, mais c'est incroyable. C'est d'un point de vue stylistique.
En fait, c'est l'intérêt aussi des langues à déclinaison, c'est-à-dire que avec une grande économie de moyens, si je puis dire, on arrive à dire beaucoup de choses. Donc c'est vrai que le latin a une poésie qui est parfois liée à sa brièveté, à sa capacité à exprimer des idées très puissantes avec deux ou trois mots.
Bah, c'est le truc, j'avais trouvé ça formidable, c'est les grands mots de l'amitié, amore, more, ore, re, par amour, par les, c'est quoi, more, par l'amour, par les mœurs, par les mots, par les actes, c'est ça, hein, arrêtez-moi si je me trompe.
Oui, enfin, de toute façon, voilà. Et l'intérêt aussi, c'est que comme c'est une langue à déclinaison, on peut mettre les mots dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre des mots. Et donc, ça permet aussi des jeux stylistiques et des jeux poétiques que le français ne peut pas se permettre. Donc, c'est vrai que, voilà, le latin et le grec, c'est un peu des pépites, mais qu'on ne découvre qu'après avoir creusé et travaillé durement et longtemps.
Quelques chiffres. En troisième, un élève sur 7 est latiniste. En seconde, un élève sur 25. Et en 2017, environ 1,5 million d'élèves étudiaient les langues anciennes. Louise Cuneo, vous avez enquêté sur la réinvention de l'enseignement du latin. Hein. Qu'avez-vous vu ?
Alors oui, absolument. Alors moi, j'avais une expérience personnelle très pénible avec le latin. J'en gardais un exécrable souvenir. Ma prof avait même demandé une dérogation pour que je puisse arrêter le latin en cours d'année tellement c'était atroce. Et je dois reconnaître que je le lui rendais bien. Et bien aujourd'hui, en ayant redécouvert le latin grâce à d'autres enseignants, notamment Robert Delors, mais aussi Sophie Goyet, que je suis allée voir à Clamart et qui enseigne aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux, j'ai découvert que le latin, ça pouvait être marrant et sympa, mais dès le début. Même sans attendre la troisième ou quatrième année, on peut s'amuser beaucoup avec le latin. Sophie Goyet, dans sa classe de 4e ou de 5e, elle adapte des pièces classiques, elle les fait traduire par les élèves et elle leur fait jouer ces pièces sous forme de petites scénettes théâtrales. Elle leur fait doubler des péplums et elle les met en ligne ensuite pour les partager et donner envie à d'autres élèves de s'y coller aussi. Elle leur fait faire des vidéos avec des chaussettes, qu'elle appelle les chaussards, sur la culture de l'Antiquité. En fait, en donnant du sens aux apprentissages et en faisant des cours dynamiques, on se rend compte que les élèves adorent ça et en redemandent. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire sortir les élèves, les emmener au musée, leur montrer des vestiges. Un cours de latin, contrairement aux souvenirs que beaucoup en ont, ça peut être extrêmement vivant.
Robert Delors, comment enseignez-vous le latin et le grec au collège ?
Oui, alors de la façon la plus vivante possible, parce que de toute façon, j'imagine pas un enseignement qui ne soit pas vivant. Mais je voulais revenir un petit peu quand même sur tout ce qui a été dit, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de souvenirs traumatisés des cours de latin. Ce qu'il faut voir, c'est que le latin, l'enseignement du latin, a quand même eu une histoire un peu tumultueuse. On se rappelle généralement pas que au tout début du XXe siècle, le latin c'était la discipline qui avait le plus d'heures dans l'emploi du temps de l'élève à l'école primaire. Au collège, à une époque où le cours de français n'avait pas encore été inventé, c'est-à-dire qu'on apprenait le français par le latin. Tout ça, ça a perduré assez longtemps quand même. En 1967, un élève sur tout le collège, il avait 19 heures de latin. Il en avait 6 heures en 6e, 5 heures en 5e et 3 heures en 4e et en 3e. Donc c'était vraiment, forcément, c'était quelque chose de contraignant qui prenait beaucoup de place dans l'emploi du temps. Et j'ai envie de vous dire que le destin tragique du latin qui s'est vu amputé les horaires ont été divisés par 4 en 50 ans, hein, pour résumer. En 2010, un élève en 2017, il a 5 heures de latin. Ça a fait aussi que l'enseignement du latin a dû évoluer. C'est peut-être un de ceux qui a le plus évolué pour ne pas disparaître, hein, puisque c'est une option. Et donc ça a amené les enseignants à aussi se dire que on ne peut pas non plus faire aujourd'hui en 2020 du latin pour du latin. C'est-à-dire que le latin, c'est une ouverture culturelle, hein, c'est une option, c'est une ouverture culturelle. Ça permet aussi d'appuyer un petit peu, d'aider un petit peu pour le français, parce que là aussi, en français, les élèves ont perdu beaucoup d'heures. Hein, en 40 ans, un élève, entre le CP et la 3e, il a perdu 600 heures de français. Donc forcément, quand on fait du latin, on fait du français. Et puis on peut pas faire du latin comme on le faisait dans les années 50 ou 60 aujourd'hui, parce que tout simplement la maîtrise du français par les élèves ne le permet pas. Donc c'est aussi un voilà, il y a cette béquille, j'aime pas trop ce terme, mais c'est aussi une béquille pour le cours de français, pour le cours de langue. Et puis ensuite, effectivement, il y a le côté vivant des langues anciennes. On étudie plus seulement le latin, on n'est plus seulement le nez tout le temps dans le gaffio. On fait à peu près 50% de langue, de travail sur la langue, qui reste le cœur de notre métier. Mais il y a aussi toute la partie civilisation. Il y a une dimension, si vous voulez, on insiste beaucoup maintenant dans les nouveaux programmes, et ça c'est un bien, sur la dimension anthropologique, c'est-à-dire en quoi est-ce que, comment est-ce qu'on peut faire progresser l'homme d'aujourd'hui grâce à la connaissance de celui d'hier, c'est-à-dire en quoi est-ce que les ressemblances et puis aussi les grandes différences entre notre monde et le monde antique nous permettent de mieux comprendre le monde antique et de mieux nous comprendre nous aujourd'hui et de mieux comprendre les événements qui nous entourent.
Robert Delors, vous nous direz tout à l'heure comment vous vous y prenez dans votre classe pour enseigner le latin, et vous nous direz si vous militez pour un enseignement obligatoire du latin et du grec. Je subodore la réponse, Robert Delors. On va essayer de vous redonner le goût du latin et du grec ancien ce matin. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Contactez-nous sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et sur l'appli France Inter. Claire Destacan et Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Manon Cancé. À la technique ce matin, le duo de choc Pauline Laverdure et Kevin Pelot. À la réalisation, Stéphanie Texier. Et on écoute les Pretenders, choisis par notre programmatrice musicale Muriel Pérez.
Got bass in pocket, got paddle, I am gonna use it. Intention, I'm feeling mental, gonna make you notice. Got motion, restrained emotion, I've been diving, detour leaning, no visa. Seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep, gonna use my fingers, gonna use my degeneration. Cause I gonna make you see. No. No one like me. I'm special, special. So special. Special. I got half some of your attention. Give it to me. I got rhythm. I can't miss a beat. I got new skank. So reet. Got something. Winking.
Les Pretenders, Brass in Pocket.
Si j'ai choisi de faire grec, c'est parce que j'adore la mythologie romaine et grecque.
Grand bien vous fasse.
La culture grecque, c'est le berceau un peu de la culture occidentale. Et puis l'alphabet, c'est assez marrant d'apprendre des nouveaux signes.
Sur France Inter.
10h36, pourquoi le latin et le grec sont indispensables en 2021? C'est la question que nous posons ce matin avec le hors-série du Point.
Oh!
Eh, bénir!
Et que dit-ce, mes salades?
Eh ben, avant ça, mes ringardoum!
Et est-ce que vous aimez le mot ringard?
Pas du tout.
Jacqueline de Romilly, il y a une question pour vous dans le studio.
Oui, c'est une question à propos du latin et du grec. Je voudrais que vous nous disiez à quoi cela peut servir pour un jeune d'aujourd'hui d'apprendre ces deux langues.
En quelques mots, je crois que cela sert pour l'apprentissage de la langue française.
Au tempora, au mores.
Quoi?
C'est du latin, ça veut dire drôle d'époque. Et quand j'ai eu drôle d'époque, je minimise.
Je crois d'autre part que c'est un exercice d'intelligence.
Des balanus, oh. Flicam justus banus assumam bel mondum, ouais.
Il me semble dans la vie qu'il y a deux sortes de gens parmi ceux que je fréquente. Il y a ceux qui savent le latin et ceux qui ne le savent pas. C'est le latin, c'est la base de la culture générale, surtout pour nous autres, le latin.
Donc au fond, lire des traductions de l'Iliade, oui, mais apprendre le grec et le latin, pour vous aujourd'hui, pour
non,
tous les écoliers...
Non, on perd du temps, il vaut mieux qu'ils apprennent l'anglais.
J'ai passé tellement de temps à faire mes devoirs de latin que je branlais rien en anglais. Et voilà, et 20 ans après, qui est incapable de demander où sont les chiottes quand il est à New York? Restroom, bordel! Je savais pas, moi!
Nous vous le disons, les Romains en perdaient leur latin.
Excellent medley signé Stéphanie Texier. Alors, à quoi ressemble l'enseignement du latin aujourd'hui, Robert Delors? Je rappelle que vous êtes professeur en lettres classiques dans la Drôme. Quels sont vos outils pédagogiques?
Alors, les outils pédagogiques, ils sont nombreux. Bon, il y a évidemment le fameux gaffio papier qu'on continue à utiliser, évidemment. Et puis maintenant, quand même, bien longtemps, les professeurs de langues anciennes utilisent beaucoup le numérique. Ne serait-ce que parce que les textes latins et grecs, on les trouve au format numérique, ce qui permet de les manipuler, de les triturer sur un tableau blanc, sur un tableau interactif. Donc, ça permet de manipuler la phrase pour essayer de voir un petit peu comment elle est construite. Vous pouvez avoir votre gaffio dans votre téléphone portable maintenant, et même le votre bailli, hein, il a été numérisé il y a peu de temps par un collègue. Tout ça, c'est des outils très très précieux. Ça évite d'acheter des dictionnaires d'abord, et puis ça permet à tout moment de travailler le latin et le grec. Et puis si vous voulez, on a quand même évolué aussi au niveau des supports, c'est-à-dire que on ne fait plus que traduire, on ne fait pas que traduire du texte au kilomètre comme ça pouvait être le cas il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans, mais maintenant on se permet d'utiliser des supports d'écriture comme les graffitis, comme les épitaphes, les pierres tombales romaines. On peut utiliser aussi maintenant des textes construits. Hein. Il y a un retour au texte construit, c'est-à-dire que on ne va pas assommer un élève de 5e qui commence latin avec l'Énéide de Virgile qui est trop dur à traduire, mais on va se permettre des petits textes qui parlent des réalia, des réalités de la vie romaine, qui sont des textes construits par des enseignants et qui permettent progressivement d'arriver à faire lire du latin. L'objectif, c'est de lire du latin.
Et vous, Blandine Lecallet, je rappelle que vous êtes écrivaine et maître de conférences en latin. Comment travaillez-vous?
En fait, je fais deux types de cours, des cours de langue et puis des cours de qui sont plus axés sur l'étymologie, la culture de l'Antiquité. Et donc, j'aborde le latin par les deux angles, hein, l'angle de la langue. Alors là, c'est un enseignement plus classique que ce dont parle Robert Delors. Mais c'est vrai que je travaille aussi beaucoup sur textes traduits. Et on a parlé de l'importance de faire accéder les étudiants à la littérature et aussi à la culture de l'Antiquité. Les étudiants sont très friands en fait de ça, et je crois que c'est important aussi de leur faire découvrir cette civilisation qui représente en fait nos racines, même si elle est en même temps très différente de nous. Donc en fait, on découvre à la fois notre identité et une forme d'altérité lorsqu'on étudie la culture gréco-romaine. Et par les temps qui courent, je trouve ça important parce qu'on insiste beaucoup sur les racines chrétiennes de l'Europe, ce qui n'est pas faux, mais les racines gréco-romaines de l'Europe, ce serait aussi un moyen d'établir des ponts de l'autre côté de la Méditerranée, hein, avec l'Afrique du Nord, avec le Moyen-Orient. Et il me semble que par les temps qui courent, c'est important aussi d'aborder la culture de l'Antiquité par ce biais-là.
Louise Cuneo, du Point.
Oui, en fait, le latin et le grec peuvent être étudiés dès le début grâce à une option qui s'appelle l'éclat, l'enseignement conjoint des langues anciennes. Et c'est-à-dire, c'est certains profs qui, au lieu de faire du latin exclusivement pendant les heures dédiées au latin, décident aussi de faire du grec, pour que dès le collège, cette ouverture à la culture gréco-romaine, comme le disait Blandine, puisse toucher tous les élèves. Mais en fait, le latin et le grec, il est d'autant plus utile s'il est mis au service de toutes les disciplines, c'est-à-dire si tous les profs s'en emparent. Un prof d'histoire géo, un prof d'histoire de l'art, les langues vivantes évidemment, en sciences, on peut parler du latin et du grec dans toutes les disciplines. Et c'est d'autant plus remarquable que le latin et le grec, ce ne sont pas des disciplines élitistes, parce que tout le monde part du même niveau en début de cinquième ou en début de troisième pour le grec, et c'est ouvert à tout le monde.
J'aimerais citer Christophe qui nous envoie ce message sur notre page Facebook. Merci pour le thème de l'émission, si elle pouvait être écoutée par tous les différents ministres, y compris l'actuel, mais surtout la précédente, qui n'ont pas arrêté de pilonner la transmission de connaissances, à commencer par le latin et le grec, qui sont des ciments du vrai apprentissage à l'école. Robert Delors, dans la lignée de ce message, vous militez pour l'enseignement obligatoire du latin et du grec.
Mais oui, tout à fait, bien sûr, puisque enfin c'est inscrit dans notre constitution. Hein, chaque élève doit avoir un égal accès à l'éducation et à la culture. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui, tout simplement parce que il y a une sorte, enfin comme pour les médecins, enfin comme pour la fac de médecine, il y a un numerus clausus pour pouvoir faire du latin. C'est-à-dire que, il y a tous les élèves qui ont envie de faire du latin à la fin de la sixième, donc à l'entrée en cinquième, ne peuvent pas en faire, tout simplement parce que le nombre de groupes est limité dans les établissements scolaires, parce que le latin n'est pas financé. Bon, ça c'est un peu technique, hein, mais en gros, si vous voulez, il n'y a pas d'heures dédiées au latin. Ce sont des heures de marche qui sont distribuées aux établissements et on pioche dedans pour faire un petit peu ce qu'on veut. Donc c'est le chef d'établissement finalement qui décide s'il va y avoir du latin, s'il va pas y en avoir, s'il va y avoir un groupe, deux groupes. Donc si vous voulez, c'est un petit peu gênant parce que on peut pas reprocher aux langues anciennes d'être élitistes si on est obligé de laisser des élèves sur le côté de la route. C'est pas possible. Souvent, on nie la démocratisation du latin. Je rappelle juste un chiffre, hein, en 1920. Il y avait 10 000 élèves qui faisaient du latin en quatrième. En 2002, ils étaient 160 000. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a bien une démocratisation du latin et que, je pense que si on y mettait vraiment les moyens, on aurait beaucoup plus que 500 000 élèves latinistes en France.
Votre regard, voilà, Blandine Lecalet.
Oui, je pense aussi qu'il y a une question de nombre d'heures. C'est que, comme l'a fait remarquer Robert Delors, les heures n'ont cessé de se rabougrir. À l'université aussi, c'est très difficile. Hein. Une heure et demie par semaine pour apprendre le latin aux étudiants, c'est peu. Et donc, on avance, mais on avance lentement. Je pense effectivement qu'on aurait tous à gagner à pouvoir faire plus de latin à nos élèves, plus d'étymologie, plus de civilisation.
Alors à ce stade de l'émission, j'aimerais citer le grand historien de l'Antiquité, Paul Venn. Si l'Antiquité nous passionne, c'est parce qu'on y découvre des rêveries qui nous montrent un monde autre, un monde imaginaire, de même que les enfants ont le goût de récits d'un monde fabuleux, un monde qui n'a aucun rapport avec la réalité présente et qui ne peut pas être atteint d'un coup d'avion. Robert Delors, sur l'imaginaire antique.
Ben, l'imaginaire antique, enfin, moi, je quand on me pose la question, je dis souvent, mais quel enfant de 10 ans n'a jamais été émerveillé par l'antiquité égyptienne, l'antiquité maya, les Incas, l'antiquité grecque, romaine. Il suffit de regarder autour de soi, il suffit de regarder la richesse de la production de la littérature jeunesse sur le thème de l'antiquité. C'est absolument ébouriffant. Il sort peut-être une centaine de nouveautés par an parce que ça leur plaît. Et malheureusement, au niveau scolaire, ça suit pas. C'est-à-dire que l'antiquité égyptienne, elle a été supprimée du programme en 2008, alors que c'était quand même les pyramides, les pharaons, tous ces mystères, c'est quand même quelque chose qui fait rêver. C'est il y a du merveilleux, il y a de l'héroïsme, il y a de la grandeur. Mmh. En même temps, il y a un petit peu de frayeur. Et voilà. Et à cet âge-là, on a tous envie de se faire de rêver. On a tous envie de se faire peur un petit peu aussi. Bah, donc c'est tout un univers onirique qui malheureusement se rabougrit un petit peu quand on y met pas les moyens, quoi.
Blandine Lecalet.
Oui, moi, ce qui me plaît beaucoup dans l'imaginaire antique, c'est que c'est par définition un imaginaire qui est libéré du Christ. Et donc, notamment le panthéon gréco-romain, ce sont des dieux qui ne sont pas des dieux qui viennent nous donner des leçons de morale, mais qui au contraire sont des dieux abominablement immoraux, qui nous ressemblent en pire ou en mieux aussi. Mais voilà, et il y a ce côté terriblement humain du panthéon gréco-romain, cette fureur, ce déchaînement passionnel, et puis cette esthétique aussi, cette beauté des dieux. Et donc, moi, c'est ça qui m'a fait rêver quand j'étais enfant, qui me fait encore rêver maintenant.
Et vous avez écrit votre thèse hein, sur les monstres à Rome, et ça me fait penser à cette célèbre phrase de la philosophe Simone Veil, « Tous les monstres sont en nous hein. ». Et donc, c'est vrai que l'antiquité gréco-romaine permet de parler admirablement de nos passions humaines. Louise Cunéo, on parlait de l'imaginaire antique, mais l'antiquité gréco-romaine permet d'éclairer notre époque, notre actualité.
Absolument. En fait, il y a énormément de références dans notre actualité à ce qu'a pu, à ce qui a pu exister chez les Grecs et les Romains. On a des exemples. Je crois que Robert Delors en a cité tout à l'heure avec sa classe. Mais quand on voit l'affaire Griveau à la lumière de l'histoire de Priape, quand on voit Catilina et Mélenchon, qu'on les met en parallèle, quand on voit Hésiode et les robots et d'aujourd'hui les humanoïdes qui sont créés aujourd'hui, il y a des échos dans l'actualité d'aujourd'hui à toute l'histoire de l'Antiquité et à ce qui s'y est passé.
Robert Delors, un de vos élèves, en 2008, un jour, fait le parallèle entre l'élection de Barack Obama aux États-Unis et l'accès au pouvoir de Septime Sévère, le premier empereur romain d'origine africaine.
Ben oui, tout à fait, parce que c'est vrai que Rome, c'est le bassin méditerranéen, et on oublie souvent que Rome n'a pas eu que des empereurs romains, qu'elle a eu des empereurs africains, qu'elle a eu des empereurs espagnols. Et voilà, moi, quand j'arrive à, si vous voulez, à ce résultat, je suis content. C'est-à-dire que l'élève, par lui-même, a fait un rapprochement entre des événements assez éloignés. Là, je voyais fleurir sur les réseaux sociaux une image très drôle. Dernièrement, c'est une gravure du sac de Rome par les Vandales au 5e siècle après Jésus-Christ. Et vous voyez, en fait, les Vandales qui partent avec le mobilier du Capitole qu'ils ont envahi. Évidemment, ça ne peut que faire penser aux photos qui vont devenir historiques qu'on a vues du sac du Capitole et des partisans de Trump qui s'en vont avec les pupitres. C'est vraiment, voilà, l'histoire se répète. Et quand on réussit à montrer ça aux élèves que voilà, il y a des choses qui reviennent de façon cyclique qu'on peut comparer, et que eux le font par eux-mêmes, c'est formidable.
Bernard-Pierre Molin, évoquons quelques citations latines que l'on retrouve dans les albums d'Astérix et que j'ai tiré de votre livre, Astérix, les citations latines expliquées. Tiens, Carpe Diem.
Carpe Diem, ça vient d'Horace. C'est une citation d'Horace qui est... En fait, c'est
cueille le jour.
Oui, cueille le jour. Alors,
c'est ambigu, hein.
C'est ambigu. En fait, on pense que c'est un truc très positif et qu'il est très content. Et en fait, non, c'est tout à fait un nostalgique. Et voilà, c'est un peu comme le poème de Ronsard, Mignon allant voir la rose. Les choses vont passer, tout va disparaître. C'est pas très optimiste. Et en fait, Carpe Diem, et on l'emploie de façon plutôt positive aujourd'hui. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a une autre d'Horace que j'aime bien et qui plaît pas à mon éditeur. C'est faut pas chercher à plaire à tous, mais à satisfaire pleinement un petit nombre. En fait, il aimerait bien qu'on plaigne pas trop, mais un grand nombre.
Tiens, une autre citation que j'ai relevée dans votre livre, évidemment, Vanitas, Vanitatum et Et Omnia Vanitas.
Vanitas. Et oui, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voilà.
Vanité des vanités, tout est vanité.
Voilà, et poursuite, affliction de l'esprit et poursuite du vent. C'est un très beau texte de l'Ancien Testament, de l'Ecclésiaste, qui, selon la légende, aurait été rédigé par Salomon, mais en fait, qui est sans doute beaucoup plus tardif. Je regarde Blondine toujours pour voir si elle, si, parce que j'ai toujours peur. Voilà, bah, c'est la vie est vaine, quoi. La vie est vaine, hein. J'ai tout vu, voilà, mais en fait.
Une citation que j'aime beaucoup, c'est Sic transit gloria mundi.
Ainsi
passe la gloire du monde. La gloire est éphémère et nulle célébrité ne doit l'oublier.
Hein. Bah oui, ça nous guette
autant
tous.
Autant des réseaux sociaux, des Instagrammeurs stars, etc., des célébriétés. Je trouve c'est pas mal ça, cette citation.
Mais oui, c'est une phrase, c'est assez drôle. C'est une phrase d'un extrait d'un livre qui a été un best-seller absolu au XVIIIe siècle, qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ, qui est l'œuvre d'un obscur qui a mis en œuvre sa citation, Thomas Kempis, on l'a complètement oublié aujourd'hui. Et voilà, c'était un livre de piété, un peu de voilà, une réflexion sur le christianisme. Je crois sans grand intérêt, mais il s'en est vendu, je crois, 2,4 millions d'exemplaires, ce qui fait rêver aujourd'hui tous les auteurs.
Et le sous-titre de Grand Vous Fasse, ça pourrait être Mens Sana in corpore Sano, un esprit sain dans un corps sain.
Alors, ça, c'est une phrase de Juvénal. Alors, Juvénal, c'est un petit peu... Je, je, je profite pour le rendre hommage, c'est un peu le Daniel Morin de Rome. C'est le mec qui déteste tout le monde.
Il déteste pas tout le monde, Daniel Morin.
Il déteste les
femmes. En plus, il est adorable.
Mais oui, j'en suis sûr. Non, mais voilà, c'est quelqu'un qui allume tout le monde.
Je parle de Juvénal, là. Hein. Pas Daniel Morin.
Oui, pas Daniel Morin. Voilà, c'est un poème qui a écrit les satires et qui disait du mal de tout le monde, qui allumait tout le monde. C'est assez drôle. Et donc, Mens sana in corpore sano, qui a été repris par une espèce de confusion en anima sana in corpore sano. Alors, il y a une confusion entre animus, l'âme, et anima, le souffle. Et c'est devenu Asics. Une marque, le nom de la marque de basket japonaise.
Je suis ravi de l'apprendre. Allez, continuez à nous appeler au 01 45 24 7000.
Je suis parti comme tu le sais à l'improviste. Pas eu le temps non de faire mes adieux. L'instant fut bref, puis vint encore plus vite la flèche de lumière qui te perça le cœur. Si l'arc-en-ciel est messaggio d'amore, pourra-t-il un jour te retrouver? Avec les couleurs peut-on effacer la plus avilissante des misères? Je suis devenu un coucher de soleil. Je parle comme les feuilles d'avril. Je vis enfin dans chaque voix sincère. Avec les oiseaux, je vis le chant subtil. Ici, mon chant le plus beau, le più denso, ne s'exprime que dans le silence, mais ça s'ensemble. Tellement de choses que je n'ai pas comprises, qui passe comme étoile filant dans mon cœur. Ai-je jamais eu du plaisir à porter cette valise infinie? Mi manchi tanto a mon cuore. Tante cose sono rimaste da dire. Écoutes-tu toujours la musica vera? Et cherches-tu toujours à comprendre?
Jean-Louis Murat, Arc-en-Ciel.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h54, pourquoi le latin et le grec sont indispensables en 2021? C'est la question que nous posons ce matin avec le hors-série du Point. Bonjour Jacques, vous avez vu, on vous accueille avec la musique, la bande originale de Spartacus, de Kubrick.
Oui, j'entends.
Alors vous avez une question très intéressante à poser à nos invités, Jacques.
Oui, alors brièvement, j'ai fait beaucoup de latin, j'ai 68 ans, j'ai fait beaucoup de latin et de grec dans mes études secondaires, j'ai commencé dès la 6e, et je n'ai plus pratiqué depuis la fin de mes études secondaires. J'aimerais savoir s'il existe un moyen de réapprendre, de s'y remettre.
C'est très bonne question, parce que moi j'ai aussi envie de m'y remettre. Louise Cuneo, vous publiez un hors-série du Point, latin et grec, le guide pour apprendre à tout âge. Comment on fait pour s'y remettre?
Ben absolument. Alors tout à fait. Ben, nous on vous propose déjà une solution avec ce hors-série, parce que dans ce hors-série vous allez retrouver des exercices et des petits jeux pour vous y remettre. Les déclinaisons, comme on l'a dit, c'est pas très difficile de les réapprendre. Et à partir de ce moment-là, traduire devient assez facile. Alors Il faut des supports amusants, tout comme pour les élèves, les adultes ont aussi le droit à leur support. Et sur le site Odysseum, par exemple, qui est un site de l'éducation nationale, enfin hébergé par l'éducation nationale, Odysseum permet d'avoir énormément de supports intelligents pour s'y remettre. Il suffit en fait d'avoir envie et de se lancer. Avec des jeux très faciles, on peut s'y remettre facilement.
Et on peut lire avec profit le livre « Premier pas en latin » de Sarah Bach, publié chez Larousse. En plus, ça coûte pas cher. Robert Delors, en quelques mots, comment s'y remettre quand on
Alors,
est
plein
dans
de
l'âge mûr
Ouais, plein de conseils. Alors d'abord, évidemment, je vous conseillerais d'aller sur le site de notre association sitarrêtetonchar.fr où il y a plein de ressources multimédia pour l'enseignement des langues anciennes. Après, il existe plein de cahiers d'exercices débutants, niveau moyen, qui existent dans le commerce. Assimil fait ça très bien. Ils ont même sorti une application pour apprendre le latin sur son téléphone portable. Je vous conseille aussi une collection qui va bientôt sortir aux belles lettres qui s'appelle Les Petits Latins. Ce sont des petits ouvrages qui sont écrits en latin et l'objectif, c'est de lire du latin. C'est-à-dire que c'est pas du latin d'auteur, c'est du latin qui raconte l'histoire des grands personnages historiques ou des réalia sur les jeux du cirque, mais tout écrit dans un latin simplifié avec quelque chose de progressif qui permet de s'entraîner à la lecture, parce que l'objectif c'est ça, c'est la lecture.
Merci beaucoup Jacques de nous avoir appelé et nous accueillons Fabien Bièvre-Perrin, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes l'animateur du site Antiqui Pop. C'est un site qui recense tous les clins d'œil de la culture populaire contemporaine à l'Antiquité. J'y suis allé tout à l'heure et c'est passionnant. Hein. Antiqui Pop.
Merci beaucoup. oui, c'est un projet que j'ai lancé en 2015, donc sur la plateforme de blog du CNRS qui s'appelle Hypothèse. Donc le blog c'est antiquipop.hypothèse.org. Et donc le but de ce projet, c'est pas seulement de recenser les clins d'œil, mais bien de les analyser et de voir un peu leur importance, leur rôle. Pourquoi est-ce qu'on va chercher l'Antiquité aujourd'hui dans la culture populaire contemporaine et aussi dans la politique. Et donc plus que des clins d'œil, le but c'est de voir justement ce qu'il y a derrière ces références, puisque bien souvent c'est pas anecdotique, souvent c'est même assez politique. Là, par exemple. Dans les derniers articles qui sont en ligne sur le blog, il y a quelque chose sur Beyoncé. Et en fait, son utilisation de l'Antiquité, c'est pas purement esthétique ou des références humoristiques. Il y a un message politique derrière sur à qui appartient l'Antiquité classique, le sens qu'il y a derrière, toute la dimension politique qui s'est installée autour de ces références depuis plusieurs siècles. Et vous avez parlé tout à l'heure aussi de l'invasion du Capitole la semaine dernière aux États-Unis. Et par exemple, sur le fil Twitter d'Antiqui Pop, on avait aussi analysé le sens des références antiques qu'il y avait eu pendant cette manifestation. Il y avait eu un drapeau, par exemple, Molon Labé, qui a une formule attribuée au roi Léonidas et qui a été réapproprié par l'extrême droite américaine notamment. Donc,
et qui veut dire
toujours quelque chose de politique.
Et qui veut dire que veut dire cette formule latine?
Ça veut dire qu'ils viennent me chercher.
En tout cas,
donc ça.
Alors, Blandine Le Calais, vous conseillez hein, ce
oui,
site.
Oui, je conseille ce site et je conseille aussi Arrête ton char. Hein. C'est vraiment deux sites, les universitaires, on va puiser aussi là-dedans. Hein. On côtoie.
Arrête ton char, antiquipop.hypothèse.org. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci Robert Delors. On peut lire avec profit votre livre Mordicus chez Aux Belles Lettres. Bernard-Pierre Molin, Astérix, les citations latines expliquées, c'est chez EPA, Blandine Le Calais, votre encyclopédie.
Le monde antique de Harry Potter, chez Stock.
Et c'est chez Stock. Et puis, on peut
illustré
lire.
Illustré par Valentine Cuny Le Calais.
Votre fille. Et on peut lire avec profit le hors-série Latin et Grec, le guide pour apprendre à tout âge. C'est publié par Le Point. Demain, eh bien, on va vous aider à improviser hein, dans le monde dans lequel nous vivons avec le mensuel Philosophie Magazine.